Boa tarde. Vamos a comenzar este novo, esta nova sesión de Os Sentidos da Cultura. Hoxe, como vedes, a nosa convidada é a directora de investigacións do CNRS francés, Anne Magitiés, que é autora de libros que algúns deles aquí se coñecen ben nesta universidade, onde ten algúns colegas que xa non é a primeira nin a segunda vez que cos que ten relación. Estou pensando nomeadamente no profesor e colega Antón Figueroa, e tamén algúns da Facultade de Historia. Por tanto, pues, estamos moi contentos de que poida estar aquí. Xa lle expliquei pola mañá en que consistía o Consello, en fin, un pouco, e que era o que aquí temos. Aparte de agradecer yo a súa presencia, tamén vos agradezo a vos por este convite, por poder participar neste debate sobre un asunto que, como galegos, e como españoles e como europeos, nos interesa moito, que é cuestión nacional, enfocada ademais desde un punto de vista cultural, como é o enfoque que a profesora Ties ten. Vou pedir ao profesor Maiz que fai unha presentación breve dele da sesión e despois comezamos, non?
Moi ben, pois boa tarde, gracias pola vosa presencia. O interese que tiña para nós que viñera Anne Magitiés a este seminario sobre os sentidos da cultura pois era precisamente porque ten abordado en diversos libros, pero nomeadamente no que se cae sexa máis coñecido aquí entre nós, que é a formación das identidades nacionais, e justamente o papel que xoga a cultura, no seu plural significado e manifestacións, no proceso de construcción das nacións. Parecíanos que unha das caras deste prisma que imos recorrendo en derredor dos sentidos das culturas era precisamente a contribución entre política e cultura, ese eixo, esa cerna dos procesos de construcción nacional. Daí que as súas análisis sobre a novela, sobre os relatos, sobre os monumentos, como factores non de expresión, senón de construcción nacional, pois teña especial relevo. E daí a nosa invitación, e pola miña parte, pois máis nada que agradecer que tivera pois a delicadeza de adicarnos a este tempo para estar con nós e debatir a súa perspectiva que teñes tedes diante pois en versión bilingüe en galego e en francés. A estructura vai ser como deitamos facer sempre, en primeiro lugar unha exposición, faremos un pequeno descanso para tomar un café e a continuación teremos o debate. Ese máis,
Permettez-moi tout d'abord de remercier le Conseil de la culture galicienne, son président et le professeur Maïs pour cette invitation qui me permet de revoir cette ville magnifique de Santiago et grâce au professeur Figueroa de revoir cette Galice qu'il m'a fait découvrir pour la première fois. Et puis merci à vous d'avoir fait beaucoup d'efforts pour me prouver qu'une terre celte peut être aussi une terre de soleil. Je crois que vous avez souffert beaucoup de pluie ces derniers temps pour que le soleil apparaisse aujourd'hui. Et c'est la première fois que je vois Santiago sous le soleil. Et c'est magnifique. Passons maintenant à la question des identités nationales. La question nationale, en notre début de XXIe siècle, soulève de nombreuses interrogations et est au cœur de très nombreux débats politiques et idéologiques. Et deux phénomènes apparemment contradictoires coexistent aujourd'hui. D'une part, la globalisation qui semble menacer les États-nations et qui, en tout cas, met en question leur rôle traditionnel dans les domaines économiques, sociaux et politiques. Et puis, il y a aussi réactivation de la question nationale de manière intense et la résurgence des nationalismes sous divers aspects. Cela s'est marqué tout d'abord par l'apparition récente de nouveaux États-nations, notamment par la dislocation de l'ancienne URSS et de l'ex-Yougoslavie. Et puis il y a aussi multiplication de revendications autonomistes ou sécessionnistes dans les États-nations déjà constitués. Et il faut souligner d'une manière générale l'importance de la question de l'identité nationale dans tous les débats politiques contemporains de l'Europe d'aujourd'hui. Même dans les vieux États-nations de l'Europe occidentale, l'identité nationale, dans les 20 dernières années, est devenue une thématique majeure de l'espace public et elle n'est plus du tout l'apanage de l'extrême droite nationaliste, comme ce fut le cas jusqu'aux années 1980. Et dans les discours qui se développent aujourd'hui, l'identité nationale est présentée comme étant en danger, menacée d'un côté par la globalisation, de l'autre par l'immigration. Comme si l'identité nationale était menacée d'un côté par l'envahissement du territoire national par des cultures exogènes qui arriveraient depuis le pôle de la puissance économique en vagues déferlantes, ou bien depuis les pôles de la pauvreté, les continents africains notamment, en infiltration clandestine. Alors, l'identité nationale, c'est-à-dire, en fait, surtout, les risques de disparition ou de dénaturation de l'identité nationale, cette question donc de l'identité nationale a été un thème majeur de la dernière campagne présidentielle en France au printemps dernier. Et un des résultats a été la création par le nouveau gouvernement français au mois de mai 2007 d'un ministère de l'identité nationale. Pour la première fois dans l'histoire française, il y a eu un ministère de l'identité nationale qui s'appelle plus précisément ministère de l'identité nationale, de l'immigration, de l'intégration et de la coopération. Alors, cette question de la nation et de l'identité nationale est aujourd'hui, dans beaucoup de pays européens, un sujet de débat passionnel. Mais néanmoins, les participants à ces controverses s'accordent sur un point. Ils considèrent que l'identité de leur nation est tout à fait spécifique et que cette identité nationale est le résultat d'une très longue et très particulière histoire nationale. Mais l'identité nationale, quelle que soit la nation envisagée, y compris la mienne, y compris la vôtre, l'identité nationale est le résultat de processus liés à la modernité et à la dimension transnationale de la modernité. Je crois qu'il ne faut pas oublier cette donnée majeure de la géopolitique, à savoir que nous vivons aujourd'hui dans un monde où la forme nationale est la plus générale pour les États existants. Et en tout cas, c'est la forme étatique la plus légitime. On considère généralement au niveau international qu'une population plus ou moins importante a le droit de revendiquer un État indépendant et souverain si cette population constitue une nation. L'État national est devenu une sorte de norme universelle en matière politique. Mais il y a 2 siècles, cette forme politique existait à peine. On peut dire même qu'elle n'existait pas véritablement. La forme nationale s'est développée en 2 siècles sur la quasi-totalité de la planète. Et c'est, je crois, la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une forme politique précise s'est universalisée. La montée en puissance du principe national, sa généralisation au cours des 19e et 20e siècles, son incarnation en organisation sociale et politique ont profondément marqué nos sociétés actuelles, pour le meilleur et pour le pire. Et pour parler du continent sur lequel nous vivons, nous savons que l'Union européenne est une association d'États-nations. Nous pouvons affirmer avec certitude que l'Union européenne compte aujourd'hui 27 États membres. Mais combien de nations ? Combien y a-t-il de nations aujourd'hui dans l'Union européenne ? Avancer un nombre, donner une réponse à cette question, c'est ouvrir beaucoup de controverses, plus ou moins violentes, et notamment discuter de cas précis, comme la Corse, l'Écosse, la Catalogne, ou même la Belgique, dont la partition sur base linguistique est un scénario tout à fait probable. En fait, nous vivons dans un espace profondément défini par la réalité nationale, mais nous n'avons pas de réponse claire, et en tout cas certainement pas de réponse univoque, à cette grande question, qu'est-ce qu'une nation ? Qu'est-ce que c'est qu'une nation ? C'est une très 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 vaste question, et des bibliothèques entières de publications et de travaux savants lui ont été consacrées. Et je n'ai aucunement la réponse de répondre en un mot, en une phrase, ou même en 30 minutes à cette question. Je voudrais simplement rappeler que sur ce sujet complexe, il faut vraiment se méfier des réponses sommaires. Il se trouve que les essayistes politiques français, malheureusement, ont souvent utilisé et diffusé ces dernières années une définition très simpliste de la nation, dont, à mon sens, l'unique intérêt est de flatter l'orgueil national français. Alors, selon cette définition, donc répandue depuis une vingtaine d'années, il y aurait deux conceptions de la nation. D'un côté, une conception purement politique, dite française, parce qu'elle correspondrait aux idéaux de la Révolution française. En ce cas, l'appartenance à une nation serait l'expression d'un choix rationnel, contractuel, d'appartenance à un corps politique. Et puis, de l'autre côté, il y aurait une conception culturelle de la nation. Et cette conception, dite allemande, serait issue du mouvement romantique. Et en ce cas, l'appartenance nationale serait déterminée par des critères ethniques et culturels. Il s'agirait donc d'une appartenance de type organiciste. On aurait donc une bonne conception de la nation, rationnelle, politique, respectueuse des droits de l'homme, et donc française. Et puis de l'autre, une mauvaise, irrationnelle, culturelle, déterministe, conduisant donc naturellement à l'organicisme et à l'ethnicisme, au racisme, etc. Et cette conception, évidemment, serait allemande. Alors, cette opposition théorique reflète bien, à mon sens, la relation très conflictuelle entre la France et l'Allemagne depuis 1870 et en tout cas jusqu'en 1945. Et cette opposition a des origines dans une polémique entre intellectuels allemands et français dans les années 1880 à propos de l'appartenance nationale d'un territoire précis, l'Alsace, qui a été disputée entre les deux pays. Mais, et je voudrais vraiment y insister, je pense profondément que cette opposition entre nation politique et nation culturelle ne permet absolument pas de classer les nations qui existent réellement sur la planète. La définition de la nation à la française comme le fruit d'un contrat politique ne permet même pas de rendre compte de la réalité française, puisque la France est un pays où l'investissement de l'identité nationale dans la langue et dans la culture est tout à fait extrême. Nous avons des lois extrêmement protectrices actuellement sur la langue française. Nous avons peut-être les lois les plus protectrices au monde sur la langue française. D'ailleurs, les nouvelles lois sur l'immigration qui ont été prises depuis l'année dernière exigent des postulants à l'entrée en France, des immigrants, une bonne connaissance non pas de la Constitution française, mais de la langue française. Donc la définition de la nation à la française sur base purement politique est assez peu conforme à la réalité. Cela dit, il y a un rapport étroit entre nation, culture et politique. Car la nation, dans la conception moderne du terme, est toujours définie à la fois dans l'ordre politique et dans l'ordre culturel. Je pense que cette double détermination, politique et culturelle, est au cœur même de la conception moderne de la nation. Pour le comprendre, je propose de revenir à l'époque où s'est formée la conception moderne de la nation, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle, dans le cas européen. La nouvelle idée de nation correspond alors à une grande révolution idéologique qui est dirigée contre les principes organisant les sociétés d'ancien régime, société monarchique, société princière, société impériale. Cette révolution idéologique suppose que les individus, au moins masculins, doivent être libres et égaux devant la loi, quel que soit leur statut social. Et elle pose aussi que la souveraineté n'est pas de droit divin et qu'elle n'appartient pas au monarque. La souveraineté est supposée être détenue par un corps politique formé par des citoyens libres et égaux. Et c'est leur ensemble, appelé nation, qui est la seule source légitime de la souveraineté politique. Il se trouve que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, proclamée en août 1789, exprime précisément cette définition politique de la nation. Mais, on le sait, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de manière tout à fait significative, ne parle absolument pas d'une nation particulière, qui serait en l'occurrence la nation française. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen avance des revendications universelles et ne donne absolument pas les critères qui permettent de distinguer concrètement une nation d'une autre, et donc de tracer les limites entre le corps politique souverain formé par les Français, par les Allemands, par les Anglais, par les Italiens, par les Suédois, etc. Et en fait, c'est dans le domaine culturel que vont être établies les bases permettant de définir les différentes nations et leurs limites, les critères de distinction entre elles. La conception moderne de la nation, donc, résulte de l'association entre un principe politique, universel et abstrait, et une définition culturelle qui va être particularisante et concrète. Et dans la formation de chaque nation, donc, depuis 2 siècles, l'accent va se trouver parfois mis sur un aspect plutôt que sur un autre. Mais c'est toujours l'alliance entre le politique et le culturel. Cette alliance, donc, qui constitue un universel du particulier, cette alliance va caractériser le développement du principe national. La nation moderne, donc, je viens de le dire, c'est un corps politique qui correspond à une communauté de culture. Mais au moment où on commence à poser cette relation, à la fin du XVIIIe siècle, en Europe, de telles communautés de culture n'existent pas. L'unification religieuse dans les États chrétiens a été plus ou moins réalisée au prix de massacres et d'expulsions. Mais à la fin du XVIIIe siècle, il n'existe pas de culture commune séculière qui puisse unir aristocrates, bourgeois et paysans sur un même territoire. L'hétérogénéité culturelle était très très grande dans les empires, les royaumes, les principautés de l'ère prénationale. La culture des élites, souvent transnationales, différait radicalement des cultures populaires qui elles-mêmes étaient souvent très hétérogènes d'un espace à l'autre. Il se trouve qu'aujourd'hui, il existe, et c'est indéniable, des cultures nationales bien affirmées, transsociales, qui permettent aux individus vivant dans un même État d'avoir des références identitaires communes et très fortes. Ces cultures nationales actuelles ont été construites. Et ça a été l'œuvre gigantesque, c'est vraiment une œuvre colossale, qui a été accomplie par des intellectuels, des artistes, des savants, des écrivains, des entrepreneurs culturels dans l'Europe des 19e et 20e siècles. Je veux souligner que ce travail colossal de construction des identités nationales a été le résultat d'intenses transferts culturels entre les nations en formation. Les constructeurs de culture nationale n'ont pas travaillé isolément, chacun dans leur espace particulier et de manière autonome et autarcique. Ils n'ont cessé d'échanger entre eux des idées, des méthodes et des principes. Ils se sont beaucoup observés, ils se sont imités, éventuellement ils ont pillé les idées les uns des autres. Beaucoup de livres ont été traduits, transposés, adaptés. Beaucoup d'œuvres artistiques ont été imitées ou recopiées, et la plupart des argumentaires nationalistes ont traversé les frontières, et à plusieurs reprises, de manière circulante. Et en fait, si on examine les identités nationales européennes construites depuis 2 siècles et telles qu'elles existent aujourd'hui, on constate qu'elles sont en quelque sorte les variantes d'un modèle commun. Et toute nation reconnue possède en effet une liste d'éléments que l'on retrouve toujours, des ancêtres fondateurs, une histoire multiséculaire et continue qui établit le lien entre les ancêtres fondateurs des origines et le temps présent, une série de héros qui sont des modèles de civisme, de comportement citoyen, de morale, en général une langue spécifique, des œuvres culturelles emblématiques en littérature, en peinture, en musique, etc., des monuments historiques et des lieux de mémoire, des traditions populaires, un folklore, des paysages emblématiques et différents autres éléments plus secondaires. Et ces éléments servent très souvent à représenter la nation dans les cérémonies officielles, dans l'iconographie des billets de banque, par exemple, ou dans les guides touristiques. Et nous avons pris l'habitude d'avoir un usage extrêmement banalisé et en quelque sorte presque quotidien de ces références identitaires nationales donc, que nous manipulons constamment dans nos activités. Et pour reprendre l'expression provocatrice d'un de nos collègues, le sociologue suédois Orvar Löfgren, on pourrait parler de checklist identitaire des nations modernes. Toute identité nationale est spécifique. C'est sa fonction première. Elle va servir à distinguer une nation. Elle est spécifique, mais elle est la variante d'un modèle général. L'homologie entre les différentes identités nationales, leur similarité structurelle, nous semble a priori paradoxale, parce qu'elle contrevient à l'auto-représentation des cultures nationales comme héritage d'un passé long et spécifique. Mais cette homologie s'accorde en revanche parfaitement avec la perception des cultures nationales comme construction de la modernité. Si le particularisme qui définit les nations concrètes en termes culturels s'articule avec l'universalisme de la définition politique de la nation, c'est justement parce que ce particularisme est standardisé. Et cette standardisation, en quelque sorte, de la particularité est d'autant moins étonnante qu'elle s'applique à la nation, une forme politique qui s'est développée à l'âge des révolutions industrielles et de la standardisation des échanges et de la production. Donc, cette standardisation du particulier correspond à très bien à un universalisme de la modernité. Les cultures nationales, telles que nous les connaissons aujourd'hui, ont été construites à partir du XIXe siècle par des intellectuels, par des artistes, par des producteurs culturels, c'est-à-dire éditeurs, directeurs de presse, directeurs de théâtre, entrepreneurs donc de la modernité culturelle. Elles ont été diffusées dans les populations par des opérations pédagogiques, parfois scolaires, mais aussi souvent extrascolaires. Les intellectuels et les artistes qui ont travaillé à la formation des cultures nationales l'ont fait par patriotisme, pour la gloire et pour le bonheur de leur nation. Certains l'ont payé de leur vie. Il y a eu des pays où travailler à la construction de la culture nationale a été une entreprise dangereuse et risquée, où on a risqué sa vie, où on a eu à subir des années d'emprisonnement. L'idéal national qui inspirait ces constructeurs d'identité correspondait aux valeurs politiques de la modernité, au moins dans la première phase des constructions nationales. Il s'agissait de travailler à l'émancipation et à la libération du peuple, à l'égalité et à la fraternité des citoyens, à l'indépendance et à la souveraineté de la nation. Les cultures nationales ont donc fourni aux membres de la nation des références communes, transsociales et transreligieuses, et elles ont ancré dans l'histoire les fondements d'une communauté de destin. Le passé, en effet, tient une place fondamentale et paradoxale dans la formation et la consolidation des nations modernes. Paradoxale parce que la nation, c'est précisément la forme politique de la modernité qui est liée aux changements politiques économique, technologique et sociale. La formation des nations s'inscrit dans un processus de bouleversement radical, concret et conceptuel des sociétés modernes. La formation des nations s'inscrit dans ce processus d'industrialisation, d'urbanisation, de développement du marché, de revendication d'égalité, d'émancipation sociale, etc. Or, ces changements radicaux ont été appuyés sur la représentation de la nation, non pas comme une nouveauté, ce qu'elle était, mais comme une communauté extrêmement ancienne qui aurait traversé les siècles. Les argumentaires nationalistes depuis le XIXe siècle, qui sont extrêmement standardisés, les argumentaires nationalistes, partout, les argumentaires nationalistes ne revendiquaient pas de changer la société pour un futur totalement nouveau. Les argumentaires nationalistes déclaraient qu'on restituait un passé fondamental, en passant à l'âge national. Construire la nation, selon cet argumentaire, c'était en fait retourner aux origines, redevenir fidèle aux origines. Il fallait réveiller la nation du long sommeil dans lequel elle s'était engourdie, où elle avait perdu conscience de son existence. Et cette question du sommeil de la nation, sommeil pluriséculaire, est très très fréquent dans les mouvements nationalistes depuis le XIXe siècle. La métaphore de la Belle au bois dormant, de Sleeping Beauty, apparaît d'ailleurs dans beaucoup d'intitulés de mouvements nationalistes du XIXe siècle. On a les cas pour les langues romanes du Risorgimento italien, de la Renascenza catalane, mais ce thème du réveil apparaît également dans la forme slave, dans les mouvements tchèques, polonais, etc., etc. Les deux derniers siècles, donc, le XIXe et le XXe siècle, ont pratiqué simultanément la religion du progrès et le culte du passé. Et il n'y avait pas, en fait, de contradiction entre ces deux volets de la modernité. Pour que tout change, sans dislocation, sans anomie, sans rupture sociale, sans doute, il faut croire que rien ne change. Pour tout changer, il faut croire que rien ne change. À l'ère moderne, le passé, qui est désormais nationalisé, a pris une fonction pédagogique. Le passé donne des leçons pour le présent, le passé fournit des indications pour les choix engageant l'avenir. D'ailleurs, l'enseignement de l'histoire nationale a été, dès les débuts de l'enseignement de masse, une matière fondamentale associée à l'instruction civique et morale. Les enjeux présents et à venir ont en fait déterminé la mise en écriture et en représentation du passé national. Ce passé national, d'ailleurs, est toujours en reconstruction, en fonction des enjeux du présent qu'il doit légitimer. Pour prendre des exemples récents que nous connaissons bien, les revendications des minorités, les femmes, on sait que les femmes sont toujours une minorité, d'ailleurs, nous le voyons bien ici, les femmes ou les immigrés, donc, les revendications de ces minorités pour faire reconnaître leur place dans la communauté nationale présente se traduisent souvent par des débats historiographiques qui revendiquent la mise en évidence de ces minorités dans le passé national. On réécrit le passé national pour y faire apparaître le rôle des femmes ou le rôle des immigrés. Et c'est un des enjeux fondamentaux dans la France contemporaine. Je vous renvoie par exemple à la question de ces grands hommes ou grandes femmes que l'on transfère au Panthéon, là où sont rassemblés les héros de la patrie, et les choix qui ont été faits en France depuis 15 ans sont clairement des choix liés à la question des femmes, de l'immigration notamment. Le passé national, c'est l'histoire d'un être collectif, c'est le roman d'éducation, souvent pathétique mais toujours héroïque, d'une communauté transsociale et territorialisée. Les personnages du grand roman national appartiennent à toutes les couches sociales. Les héros du passé national ne sont pas seulement des princes, mais aussi des bourgeois, des paysans, quelquefois des brigands patriotes ou des femmes. Et les grands thèmes du récit national sont la résistance à l'oppression, le combat pour la liberté, la réalisation de l'unité. une histoire nationale est constamment scandée au fil des siècles par ces grands thèmes. D'ailleurs, ce qui n'était pas le cas pour les histoires dynastiques, même les défaites militaires peuvent être des moments extrêmement importants d'une histoire nationale, des moments de commémoration d'une histoire nationale, si ces défaites militaires peuvent être présentées comme des exemples d'unité et de sacrifice héroïque à la cause nationale. L'émergence de l'idée de nation, c'est une de ses conséquences importantes, a engendré une conception nouvelle à partir du début du XIXe siècle, celle de patrimoine matériel collectif, avec notamment un élément très important, celui des monuments historiques. Les monuments historiques n'existaient pas avant l'idée de nation. Ils sont apparus en relation étroite avec l'idée de nation. Autrefois, n'existaient que des bâtiments anciens, très nombreux certes, mais toujours définis par leur usage et par leur propriétaire. Et le propriétaire pouvait faire de ces bâtiments anciens ce qu'il voulait, ce que ses moyens financiers lui permettaient. Le propriétaire d'un bâtiment ancien avait toute liberté pour le modifier, le rendre plus commode, plus confortable, plus conforme à l'esthétique de l'époque. On sait que la plupart des églises romanes ou gothiques ont été améliorées par des ornementations baroques. Beaucoup de châteaux médiévaux ont été abandonnés ou vendus comme réserves de pierre par leurs propriétaires. Avec l'idée de nation est apparue l'idée que certains monuments anciens avaient, par leur ancienneté, une valeur historique et esthétique, qu'ils étaient donc des éléments précieux d'un héritage collectif. Et porter atteinte à cet héritage, comme le dit le terme de vandalisme inventé par l'abbé Grégoire, un républicain, qui s'indignait des destructions commises au moment de la Révolution française, porter atteinte à l'héritage national, c'est être un barbare étranger à la nation. Un membre de la nation digne de ce nom ne peut pas porter atteinte au patrimoine national. Donc, porter atteinte au patrimoine national, c'est s'exclure de la nation. Par conséquent, l'émergence de ce principe impose que le propriétaire légitime d'un bâtiment a ses droits en quelque sorte limités par un intérêt supérieur, celui de la nation. Ce qui a posé tout de suite un problème énorme. Dans la masse considérable des bâtiments anciens qui existaient en Europe au début du XIXe siècle, comment pouvait-on déterminer ceux qui avaient une valeur spécifique pour le patrimoine national? Il y avait donc un travail de sélection important à faire. Tout un travail a donc été mené depuis le début du XIXe siècle pour établir la liste, l'inventaire des bâtiments ayant une valeur nationale spécifique et proposer pour ces bâtiments des mesures particulières de conservation et éventuellement de restauration. Ce travail a été entrepris par des intellectuels, par des artistes, puis relayé par des associations patriotiques et il a abouti progressivement, parfois très lentement, à des mesures étatiques. Je prends un exemple célèbre du lancement d'opérations de ce type. En 1831 est publié à Paris un roman historique qui a pour héroïne une cathédrale. C'est extraordinaire que l'héroïne d'un roman soit une cathédrale. Et dans ce roman, Notre-Dame de Paris, Victor Hugo donne à ses lecteurs un cours d'histoire médiévale et un cours d'architecture médiévale. L'architecture médiévale, jusqu'alors, n'est pas prisée, n'a pas de valeur. Elle est considérée comme dépassée, vieillotte, laide. Victor Hugo apprend à ses lecteurs à regarder une cathédrale gothique, à savoir pourquoi elle est belle, et à apprendre le vocabulaire spécifique permettant de décrire l'architecture gothique et la valoriser. Et à la fin de ce roman, très pédagogique, Victor Hugo lance un appel à l'action et à la pédagogie patrimoniale. Je le cite. « Conservons les monuments nationaux. Inspirons, s'il est possible, à la nation l'amour de l'architecture nationale. » Quelques années plus tard, va être créée en France, pays centralisé, État-nation précoce, une commission des monuments historiques. Mais la même année 1831, l'érudit allemand Sulpitz-Boisseré publie une œuvre considérable qui s'appelle le Domwerk, l'œuvre de la cathédrale, à la gloire de la cathédrale de Cologne. Et une association est constituée pour achever la cathédrale de Cologne sur la base de plans médiévaux miraculeusement retrouvés, donc pour achever cette cathédrale de Cologne qui devient en fait la métaphore de la nation allemande en cours d'unification. Et donc lancement d'une souscription patriotique parmi la bourgeoisie allemande en Allemagne et même en diaspora pour finir cette cathédrale métaphore de la nation. En fait, à l'époque, c'est dans toutes les nations européennes que commence à se former un très riche ensemble de monuments historiques qui vont être patriotiquement et abondamment restaurés au XIXe siècle. Ce travail de recension et de protection aboutit aussi à la détermination de styles architecturaux nationaux qui ont servi de référence pour la construction des nouveaux bâtiments symboles de la modernité. Comme nous le savons, l'Europe de la fin du XIXe siècle, cette Europe fière de sa modernité, s'est couverte de stations de chemin de fer, de bâtiments des postes, d'hôtels de ville, voire de prisons, en style néo-gothique ou néo-renaissance, qui étaient supposés incarner l'esthétique architecturale nationale et donc inscrire l'âme, le style de la nation, dans la modernité la plus avancée. Autre élément important dans la formation des nations modernes, la langue. La question linguistique a été un des très gros chantiers de la formation des cultures nationales. La carte politique de l'Europe aujourd'hui correspond approximativement, et j'insiste bien sûr sur approximativement, la carte politique de l'Europe est approximativement une carte linguistique, et on peut en tout cas circuler partout à l'intérieur d'un même État en utilisant la même langue. Pourtant, le paysage linguistique de l'Europe au XVIIIe siècle était très différent de celui d'aujourd'hui. Au sein d'un même État, la langue de la cour, la langue religieuse, la langue de l'enseignement, la langue de l'administration, parfois même la langue du commerce, pouvaient être très différentes et coexister avec des parlers populaires diversifiés. Bon, on sait bien qu'au XVIIIe siècle, le français était la langue de conversation et d'écriture d'une bonne partie de l'élite européenne. Mais une grande partie des paysans français étaient incapables de parler et de comprendre le français. La monarchie française avait fait de la langue du roi une langue administrative et une langue de culture. Mais le roi de France était parfaitement indifférent à l'extrême diversité linguistique de ses paysans. Et de ses paysans, il attendait surtout qu'ils payent l'impôt et qu'ils ne se révoltent pas. Cette situation a complètement changé, et très très vite, en France, après la Révolution. Puisque, en l'espace de quelques années, l'éradication des patois a été présentée comme une nécessité politique. Et d'une manière générale, en Europe, la formation de la nation et la modernisation politique ont été associées à l'idée de communauté linguistique. L'idée que tous les membres de la nation devaient, en toutes circonstances, parler une seule et même langue. Un des grands théoriciens des nouvelles conceptions des cultures nationales, le théologien allemand Herder, reprochait ainsi violemment aux aristocrates allemands de ne parler allemand qu'avec leurs domestiques et avec leurs chevaux. Et il estimait qu'il était grand temps que la noblesse allemande se mette à pratiquer la langue allemande. Je rappelle que le roi de Prusse, Frédéric II, avait interdit à l'Académie de Berlin de travailler en allemand, langue qu'il jugeait justement propre aux domestiques et aux chevaux, et l'Académie de Berlin était tenue de travailler en français. La formation donc de la nation en Europe a été associée à un idéal de monolinguisme. La langue nationale moderne devait se substituer à la diversité, plus ou moins prononcée, des formes de communication et d'expression antérieures. La langue nationale moderne devait être utilisée par tous les membres de la nation, quelle que soit leur origine géographique, leur origine sociale, et elle devait désormais servir à tous les usages, des plus triviaux aux plus élevés, de l'achat de légumes sur le marché au discours politique, en passant par la déclaration amoureuse ou par la conférence académique. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans cet idéal du monolinguisme qui fait que nous devons utiliser le même matériau en tous usages et en toutes circonstances, avec ce grand problème pour le monde académique que nous avons pris l'habitude de penser dans des langues différentes. Au XVIIIe siècle, rares étaient les langues pouvant remplir tous ces usages. Le XIXe siècle européen a donc été le théâtre de très grandes opérations de construction, de modernisation et de diffusion de langues nationales qui ont été constituées sur des bases diverses. Dans certains cas, la langue nationale moderne a été élaborée à partir d'une langue écrite, déjà existante, plus ou moins vieillie, qui a été modernisée, enrichie d'apports empruntés à des dialectes vivants et aussi simplifiée pour qu'elle puisse être pratiquée dans toute la population. C'est le cas de l'italien, de l'allemand, du hongrois, par exemple. Dans d'autres cas, il a fallu un travail philologique beaucoup plus important pour créer des langues nationales, écrites et orales, à partir de dialectes parlés par les paysans. Et ce travail donc de construction à partir de dialectes, ça a été le cas de nombreuses langues slaves balkaniques, mais aussi du finnois, de l'estonien, etc. Alors, il y a un point que je voudrais souligner. Dans la plupart des cas, la formation des langues nationales modernes n'a pas été le résultat de mesures étatiques, mais cette construction a été menée par des intellectuels patriotiques. Justement, l'État national n'existait pas encore, et ces opérations philologiques ont été une des premières étapes préparant la revendication d'une souveraineté nationale. Et très souvent, des associations libres d'élites patriotes ont financé les premières publications dans la langue nationale, ont financé les premiers enseignements dans la nouvelle langue nationale. La nation moderne, je ne cesse d'y revenir, c'est une communauté transsociale. Or, reconnaître des droits politiques à l'ensemble de la population, y compris les couches sociales les plus pauvres, c'est-à-dire initialement la paysannerie, c'était une conception extrêmement révolutionnaire. Et cette conception révolutionnaire politiquement a été préparée et accompagnée par une reconnaissance culturelle des populations les plus humbles de la communauté nationale. Le paysan est même devenu, dans l'Europe du XIXe siècle, une sorte de symbole national. Dans un premier temps, la paysannerie, qui pendant des siècles avait été considérée comme dépourvue de toute culture. La paysannerie, c'était la classe sans culture. Dans un premier temps, la paysannerie a été présentée comme une sorte de musée vivant des origines nationales. Les traditions populaires, qui avaient été abondamment méprisées, ont été promues comme les vestiges, les reliques d'une culture originelle, celle des ancêtres fondateurs. Exemple, dans le cas français, les traditions de la paysannerie au début du XIXe siècle ont été interprétées comme des vestiges de la culture des Gaulois. Et elles ont été analysées, décrites en ce sens. Et donc, des intellectuels ont multiplié les enquêtes et les collectes de chants et de coutumes populaires pour mettre au jour les fondements authentiques des cultures nationales. Et l'ethnographie naissante est apparue comme une sorte d'archéologie culturelle du national. D'autre part, une question fondamentale qui se posait aux nations émergentes était la mise en valeur de leur rapport intime avec un territoire, qui, à terme, permettait de poser la question des frontières, la question de l'espace national et de ses limites. La paysannerie est donc très vite été présentée comme l'incarnation vivante de ce rapport intime entre communauté nationale et territoire national. Et plus les nations européennes s'industrialisaient et s'urbanisaient, plus elles entraient en compétition économique et technologique, plus elles plaçaient leur identité sous la référence à l'archaïsme et au monde rural. Paradoxe, mais en fait, une réalité très profonde de cette modernisation des sociétés européennes. Dans les grandes exhibitions identitaires qu'ont été les expositions internationales à partir de 1851, les grands pavillons de machines où on présentait les dernières réalisations de la technologie, ces grands pavillons voisinaient avec des expositions de traditions populaires et avec des villages ethnographiques. Et des musées d'ethnographie nationale ont été ouverts dans toutes les grandes capitales européennes à partir de la fin du XIXe siècle. Et ces musées d'ethnographie nationale ont été explicitement présentés comme des lieux d'éducation patriotique. La paysannerie a été investie aussi d'une autre fonction identitaire, celle d'incarner la nation authentique et pure contre le prolétariat, puisque ce prolétariat, souvent redouté par les élites bourgeoises, ce prolétariat était présenté souvent comme non national d'origine et à tendance internationaliste. Le principe national, de fait, avait généré très vite sa contradiction. L'égalité juridique des citoyens et la solidarité de la communauté nationale avaient été affirmées, alors que le système capitaliste en expansion marquait de nouvelles différences économiques entre les individus. Et au milieu du XIXe siècle, au moment même où commençait à s'imposer en Europe le principe national, s'est constitué son apparente opposée, à savoir l'internationalisme. Et l'année 1848 a été à la fois le printemps des démocraties populaires sous régime communiste de l'Est. Jusqu'à la chute du mur de Berlin, la construction européenne s'est effectuée sans que la question de l'identité européenne paraisse cruciale. On peut dire d'ailleurs qu'elle ne se posait pas, puisque l'identité européenne, c'était une identité de type économique et politique. Cette question de l'identité européenne est devenue en revanche fondamentale dans les années 1990. L'Europe actuelle, à dimension continentale, ne se définit plus par opposition à une autre communauté politico-économique. Et tout son problème, pourrait-on dire, c'est que l'affranchissement des contraintes qui pesaient sur le continent oblige maintenant les Européens à trouver, en urgence, et pour la toute première fois de leur histoire, les raisons d'une communauté d'intérêt et de destin. Comment penser et représenter les fondements de la solidarité et de la citoyenneté entre Européens qui permettraient de légitimer une véritable union politique. Certains hommes politiques ou penseurs, et notamment, comme nous le savons, c'est le cas de Jürgen Habermas, ont proposé de fonder la citoyenneté européenne sur un patriotisme constitutionnel, une adhésion politique pure qui permettrait de ne pas renouveler les tragédies induites par le nationalisme culturel. Le problème, c'est qu'une adhésion de ce type paraît trop fragile, trop labile, trop peu durable pour faire contrepoids aux deux autres modes d'identification qui reprennent aujourd'hui une très grande force, à savoir l'identification nationale et l'identification religieuse. Et un patriotisme constitutionnel, admirable certes, ne peut pas faire un poids suffisant face à une identité religieuse et une identité nationale, surtout exacerbée, radicale, fondamentaliste. De là la tentation, qui est de plus en plus développée depuis quelques années, de vouloir reproduire pour l'Union européenne un modèle qui a fait la preuve de son efficacité, le modèle du national. Il a été même tellement efficace qu'il s'est généralisé. Le couplage de la communauté politique et de la communauté culturelle s'est avérée en effet d'une extrême efficacité pour constituer des unités politiques fortes et stables. Et le paradigme transnational de formation de l'identité nationale, qui a été abondamment reproduit, qui est très facile à reproduire d'une certaine manière, ce paradigme transnational apparaît donc aujourd'hui comme une solution tentante pour l'Union européenne. Et de fait, de nombreuses opérations sont actuellement engagées pour essayer de mettre en valeur une culture commune des Européens qui serait fondée notamment sur la mise en valeur d'un passé commun. Il y a actuellement des tentatives engagées pour écrire une histoire unitaire de l'Europe, pour définir des lieux de mémoire européens, pour définir des villes de culture européenne, etc. Mais les obstacles à cette entreprise sont nombreux. D'abord parce qu'il est extrêmement difficile d'européaniser ce qui a été en fait constitué dans le cadre national. Comment, par exemple, arriver à penser une histoire commune européenne alors que toute notre perception du passé est profondément inscrite dans des cadres nationaux? Les histoires de l'Europe que nous avons sont des histoires nationales. Mais au-delà même, notre perception commune, notre perception de citoyen ordinaire est une perception profondément nationalisée. Le passage au stade européen est extrêmement complexe. Et j'ai proposé de penser à cet exemple auquel nous sommes confrontés quotidiennement, celui des billets de l'euro. Les billets des monnaies nationales sont illustrés par des éléments de ce que j'avais appelé la checklist identitaire nationale, des monuments historiques nationaux, des grands hommes de l'histoire nationale, des représentations des grandes œuvres culturelles de la nation ou des paysages de la nation. Or, nous savons que les billets de l'euro sont illustrés par des éléments architecturaux virtuels, puisque tous les monuments de l'espace européen sont perçus en termes nationaux, et que donc cela aurait posé des problèmes politiques sérieux que de représenter des monuments réels sur les billets de l'euro, puisqu'ils auraient été perçus comme des éléments nationaux, favorisant donc une nation particulière. D'autre part, le monolinguisme national, qui s'est avéré un puissant facteur du sentiment d'appartenance à une communauté, qui a permis le développement d'un espace public pour les citoyens, un espace de débat, un espace d'échange, un espace de communication, ce monolinguisme national, c'est aujourd'hui un obstacle majeur au développement d'un espace public européen. L'Europe actuelle est caractérisée, on le sait, par un sérieux déficit démocratique, qui est imputable pour une large part à un manque d'espace public transnational. Nous sommes une tour de Babel et nous en payons les conséquences. On peut aussi surtout objecter, c'est en tout cas mon opinion, que le modèle national correspondait à une forme aujourd'hui révolue, dépassée, de conception des rapports sociaux et des rapports de production. Le modèle national correspondait à un moment qui produisait une homogénéisation d'un espace géographiquement circonscrit, aux frontières bien déterminées, strictement hiérarchisées et monocentriques. Ça, c'est le modèle du national. Un espace bien défini, un centre et des rapports hiérarchiques. Le modèle de l'identité nationale correspondait à l'ère de la presse, écrite en plein développement, à l'ère des chemins de fer, à l'ère de l'expansion industrielle. L'Union européenne, celle qui débute avec nous au XXIe siècle, devrait sans doute plutôt chercher son identité dans les nouvelles topologies de la postmodernité, polycentriques, souples, où les relations entre individus et groupes ne suivent pas des lignes immuables et hiérarchisées. Nous sommes à l'âge d'Internet. La devise proposée pour l'Union, l'unité dans la diversité, devrait à mon avis être déclinée selon ces formes nouvelles de la communication et de la production. Mais il faudrait alors s'engager résolument dans des entreprises innovatrices et dans un changement conceptuel aussi radical que celui qui a inspiré, il y a deux siècles, la formation des nations. Je vous remercie de votre attention.
Gracias, Máximo. Hacemos un pequeño descanso, 15 minutos para tomar un café y volvemos para el debate. Muchas gracias.
Gracias.